je suis souvent un peu en porte-à-faux parce que je travaille sur des corpus qui sont généralement peu connus, mais là, je viens de voir que ça se termine parfaitement bien pour moi parce que je vais parler aussi des questions de l'aliénation, mais évidemment dans une optique des marxistes des années 50. Alors, vous aurez peut-être deviné que bon, ma proposition était en fait inspirée de tous ces débats qui n'est jamais fini autour du réalisme merveilleux qui, enfin, en Haïti, date des années 50 et je dirais que, bon, jusqu'à présent, c'est un genre de passage obligé pour tous ceux qui pensent parler de la littérature des Caraïbes, alors que je ne suis pas sûre qu'on sache encore aujourd'hui de quoi on parle. Alors, j'ai pensé que dans le contexte de cette rencontre, ce serait peut-être utile de revenir sur vraiment deux des textes de base, d'origine du débat autour du réalisme merveilleux en Haïti, et le principal intervenant, en fait, en Haïti, c'est Jacques-Séphane Alexis, qui est à la fois romancier, critique, médecin et surtout militant communiste, vous allez le voir. Donc, c'était en fait un débat autour de la notion d'une littérature nationale, donc fortement ancrée dans l'idéologie marxiste, et les deux textes, puisque bon, j'ai gardé mon titre, mais je n'ai pas pu garder tout le corpus que j'avais envisagé au départ, donc je vais tenir à deux textes des années 50, dont je vous ai distribué quelques extraits. Et bon, donc en fait, c'est une apologie du réalisme dans laquelle on finit par trouver enfin, un genre de glissement plus ou moins volontaire vers le merveilleux. Et ces deux articles, en fait, sont la publication des conférences d'Alexis au premier congrès des écrivains et artistes noirs qui a eu lieu en 56 à Paris et en fait auparavant. Donc c'est un article de 56 et un autre de 57. Et en fait, avant le congrès, il y avait eu tout un débat dans le périodique Reflet d'Haïti, en Haïti même, autour de cette question et qui était mené vraiment par Alexis lui-même pour situer aussi ce dialogue avec la société de son temps, parce que vous allez voir que c'est vraiment ça. En fait, c'est plutôt une bataille, mais c'est bon. c'est un genre d'échange. Donc, il faut savoir aussi que comme la plupart des intellectuels haïtiens, en fait, depuis l'indépendance, cette élite qui intervient dans ces débats-là et qui sont donc formés à l'école catholique française, enfin, toutes les écoles pratiquement sont implantées en Haïti sont des écoles catholiques. Et ensuite, la formation se fait à Paris. Donc, il a fait sa formation de médecin et neurologue à Paris avant de revenir donc en Haïti. Mais là, en fait, ce qui marque toutes ses interventions publiques, je dirais, c'est le fait que bon, il s'inscrit très jeune au Parti communiste et les intellectuels, artistes de l'époque sont très souvent membres du Parti communiste et le débat est très donc fortement marqué par cette action de militant. Ce qui fait que moi, Alexis en Haïti est sans doute un des écrivains les plus célèbres, non pas tellement à partir de son travail de romancier, mais parce qu'il fait partie des martyrs du duvalialisme, avec dès le départ, avec beaucoup d'autres, mais qui enfin, donc, est décédé de façon prématurée dans une tentative de débarquement à partir de Cuba d'un groupe de militants qui avait sans doute le renversement de Duvalier dès 62, il est décédé en 62, dans des circonstances nébuleuses, il paraît que bon, le groupe a été trahi, on ne sait pas trop comment, et le corps d'Alexis n'a jamais été trouvé, donc il a cette aura de martyr des opposants de Duvalier. Et bon, il a eu quand même, bon, donc il est mort à 40 ans, il a eu quand même le temps d'écrire 4 romans et publier un recueil de nouvelles et beaucoup d'interventions, donc des articles où il intervient en tant que critique d'art et de littérature dans les périodiques. Mais tout ceci pour dire aussi que bon, dans les deux textes qui m'intéressent, donc c'est un jeune intellectuel en début de carrière et vous allez voir que bon, c'est très enthousiaste. On voit tout son enthousiasme de militant socialiste en fait dans ces différentes interventions. Donc sa première idée, c'est vraiment le réalisme social dans ces deux articles et enfin je dirais un peu partout. Et le deuxième volet, donc je crois que j'ai oublié de vous donner les références. Le premier article donc, de 56 ça s'appelle carrément « Du réalisme merveilleux des Haïtiens » et le deuxième « Où va le roman ?» en 57 il fait vraiment l'apologie du roman réaliste qui précise en fait, donc le deuxième article précise un certain nombre d'éléments qui ont déjà été présentés dans le premier où il présente vraiment de manière très convaincue la voie du réalisme socialiste comme l'avenir, le seul avenir pour la création artistique en Haïti et donc de la littérature nationale. Mais ça l'amène à faire bon toutes ces déclarations à l'emporte-pièce sur donc le caractère national de la littérature, du fait que bon c'est un imaginaire enfin réaliste. Donc au départ, c'est vraiment une apologie du réalisme. Bon, je vous lis deux trois extraits de votre exemplier. Donc, vous verrez que bon, c'est très décidé, c'est très clair. En règle générale, pour les Haïtiens, comme pour nos frères nègres, l'art est foncièrement lié à la vie. Nous sommes rêveurs, oui, mais réalistes infiniment. L'art, pour nous, est essentiellement lié à la vie pratique. De même, les peuples centraux et latino-américains ont presque toujours produit, en général, des œuvres liées au réel. Tout ce qui a été fait de notable, de valable dans leur littérature a procédé du réalisme. Donc, c'est quand même un petit peu rapide, mais c'est évidemment parce que ce réalisme doit servir à entraîner le peuple dans la grande marche en avant de l'humanité. Donc, deuxième citation. Le progrès est fonction de la bataille des idées. Aussi, nous ne cesserons pour notre part de prôner un contenu réaliste, dynamique et humaniste, des formes artistiques fonctionnelles, c'est-à-dire servant à mettre en valeur bellement ce contenu. Il semble d'ailleurs superflu d'insister ici sur cet aspect. La grande masse des créateurs les plus en vue dans des peuples noirs et des pays sous-développés tombant en général d'accord sur cette question. Dans la conjoncture actuelle, dans l'aliénation historique qu'ont connu nos peuples respectifs, la mission de nos créateurs est de chanter les beautés, les drames et les luttes de nos peuples exploités, en repensant les canons mis au point par les cultures occidentales en fonction des trésors culturels nés sur notre sol. En élevant à la dignité d'œuvres d'art accomplies, à la dignité de merveille, l'inépuisable tradition de nos peuples pour lesquels l'art est affaire quotidienne, création continue, collective, populaire. Nous sommes en mesure de renouveler originalement les lois des genres et d'apporter à la culture mondiale un enrichissement que l'Occident, où la vie populaire s'est dépoétisée depuis le capitalisme, n'est plus en mesure de donner. Donc là, vous voyez qu'on s'est très lourdement tourné autour de la rhétorique et de cet enthousiasme considéré comme mondial. Donc on ne se contente pas de créer une littérature nationale haïtienne. Le projet, c'est quand même de renouveler toute la littérature à travers le monde. Et vous voyez aussi que bon, ce genre de poussée d'enthousiasme qui fait que bon, la grande masse des créateurs des peuples noirs sont d'accord sur le réalisme. Bon, je crois que dans les années 50, la grande masse n'est pas si massive que ça. Donc, on voit que ça extrapole un petit peu. Mais bon, c'est donc inspiré. L'art doit s'inspirer de cette création collective des peuples du Sud, puisqu'ils n'ont pas encore subi cette aliénation. Mais l'idée, c'est de guérir le reste du monde. Et la mission de l'artiste, donc, est de participer à la libération non seulement du peuple haïtien, mais de tous les peuples à travers le monde. Donc, nos peuples aux poings, aux pieds entravés et aux bouches bâillonnées ont besoin de nous. Artistes, nous sommes, et en artistes conscients de la difficulté et de la complexité de l'œuvre d'art, nous devons travailler à dénoncer l'aliénation raciste, colonialiste, impérialiste. Pour ce faire, le réalisme est notre seule chance. Bon, donc, le prétexte de cette insistance sur le réalisme, c'est donc vraiment de créer des arts en Haïti pour le peuple, inspiré du peuple lui-même, de ses propres créations, mais ce qui sous-entend quand même que la seule voie de la création qui serait accessible au peuple, c'est le réalisme. Donc ça, c'est même à l'époque, je crois, bon, assez contestable. Ce qui amène donc par la suite, et dans les débats qui suivent aussi, Alexis à joindre finalement, enfin, dans un deuxième temps, le réalisme merveilleux, c'est-à-dire le merveilleux réalisme social, puisque c'est incontournable dans la culture populaire. Bon, ceci dit, bon, cette insistance donc, sur le réalisme dans la démarche d'amener le peuple à participer à cette marche en avant, c'est évidemment doublé de toute une contestation de l'art bourgeois de l'époque. Donc, c'est un propos qui s'inscrit très clairement et résolument dans ce débat, parce qu'on est dans les années 50, et c'est vrai que bon, dans les pays du Sud, l'art pour l'art est suspect, et on est à l'époque donc, du nouveau roman, de l'art abstrait, de ce qui a été appelé donc, l'art pur, bon, etc. Ce qui fait que bon, dans ces textes aussi, on trouve toutes sortes de charges vraiment contre l'art enfin, qui est visé. Donc, le réalisme est pour corriger ce problème de l'art bourgeois qui serait, bon, je cite quelques extraits de ces mêmes textes, donc pas seulement futile et frivole, mais aliénante. Propos ici d'Alexis toujours, oublions les faux problèmes, les jeux de cirque, les dissections de mouches, l'intellectualisme poussif, anémique, invertébré de l'art aujourd'hui officiel en Occident. L'art de la grande masse des créateurs bourgeois est un art marqué au coin de la décadence, un art de faux problèmes, un art d'intellectuel essoufflé, pourri de cérébralité, et un art de fin de civilisation. Donc, l'apologie enfin, du réalisme, c'est aussi pour contrer ces nouvelles tendances. Et on voit par ailleurs, dans ces différentes charges contre l'art contemporain ailleurs que dans les pays, enfin, parce que là, il s'adresse aussi aux Africains, évidemment, puisque c'est au congrès des artistes noirs qui parlent. Mais bon, donc, il est vraiment dans un langage de discréditer tout ce qui s'est fait en Occident. Mais et là, il y a un double langage. Bon, je prends le prochain extrait dans votre exemplier, parce que bon, le langage ici, bon, la rhétorique marxiste qu'on reconnaît facilement, est quand même doublé parfois d'un autre langage que vous trouverez, donc le prochain extrait. Cette tendance à la gratuité n'est le fait que d'une masse franche d'artistes liés à des classes sociales décadentes, l'expression de véritables pédérastes de la culture. Malheureusement, quelques-uns de ces gens-là existent dans tous les pays. Bien sûr, les sectateurs de la gratuité peuvent se trouver des ancêtres et des précurseurs. Plus de grands artistes ont pu subir des influences négatives, commettre des péchés véniels, accorder une trop grande importance au côté formel, mais ils n'ont été grands en définitive que parce que leur œuvre restait globalement réaliste, humaniste. Ce que veut ce réalisme, c'est que l'art et la littérature n'oublient pas leur objet. Produire une nourriture saine et vivifiante pour l'esprit et le cœur des hommes, une nourriture qui satisfasse en même temps au bon goût. L'art et la littérature ont leurs vices, comme la sexualité, la gastronomie, le plaisir de boire. Bon, donc là, vous voyez qu'il y a un autre petit langage qui se glisse ici, dans la rhétorique marxiste, et qui parle de vices et de péchés. Donc, on voit transparaître les origines plutôt de la formation bourgeoise catholique de Crivin. Et je crois aussi qu'on voit ce double langage dans ces textes créations aussi, qui font que, bon, il se sert un peu de tout ce qu'il a comme munition, donc pour discréditer aussi bien la morale chrétienne que l'idéologie marxiste. Parle des bas instincts dans les romans de Katsu qui ne sont pas vraiment de la littérature populaire crédible. Bon, il parle de ce problème des films où des quelconques, il dit, bon, où s'étalent les fesses d'une quelconque Brigitte Bardot. Donc on voit vraiment ici un autre langage qui se glisse, mais qui sert donc en même temps à donc, tout ce qui s'est fait en Occident donc, est à rejeter. Bon, donc, ceci dit, bon, le dilemme qu'il va donc rencontrer, c'est en fait un double dilemme parce que bon, il se rend bien compte que s'il veut faire cette apologie d'un renouvellement par l'art populaire, la création continue du peuple, dans cette optique-là, tout ce qui est de l'ordre du surnaturel est incontournable. Mais là, il a quand même un double problème puisque le surnaturel est à la fois discrédité ou rejeté par l'élite haïtienne catholique qui ne veut rien savoir. Donc du culte populaire qui est en fait le vaudou, et d'un autre côté évidemment le marxisme pour qui bon, tout ce qui est religion est opium du peuple. Alors comment va-t-il faire pour intégrer le merveilleux malgré tout dans son réalisme pour que ça soit quand même situé dans la culture populaire? Donc ce qu'on voit dans les deux articles, c'est que bon, cette démarche donc de l'inclure dans le réalisme socialiste, il est plutôt réticent à le faire, et je crois que ça transparaît un peu partout dans ces formulations qui continuent à être ambivalentes pratiquement à travers les deux articles et ailleurs aussi. C'est-à-dire que bon, dans la mesure où il veut parler, enfin pour lui, l'art doit être le reflet de la culture populaire, doit défendre fidèlement, représenter cette culture-là, et qu'est-ce qu'on fait alors avec ce monde de l'invisible qui, pour le peuple, fait partie de la réalité. Alors cette réalité, elle est à la fois visible et invisible, donc il faut bien l'inclure d'une façon ou d'une autre, mais ce volet-là ne correspond pas en fait à ses véritables convictions, comme on le voit dans ces deux articles. Ce qui fait que, bon, ici et là, à travers les deux, les formulations font en sorte que le réalisme merveilleux va paraître comme une étape. Et il y a des formulations du type, bon, c'est un vêtement, c'est une enveloppe qui peut très bien contenir autre chose. Donc, de ce point de vue-là, ce n'est pas quelque chose qui serait essentiel à une littérature ou aux arts nationaux. Ce serait comme quelque chose de provisoire qui doit bien exister puisqu'il faut faire quelque chose pour engager le peuple dans la voie du marxisme. Mais en même temps, les formulations montrent bien que c'est plutôt son corps défendant qui s'en va vers le merveilleux. Donc je vous lis deux ou trois extraits qui nous montrent un peu donc ce problème-là. La citation numéro 5. Ces conteurs, donc là il répond à des questions concernant son écriture de romancier, dont il dit toujours qu'il s'inspire des conteurs, bien sûr. Ces conteurs m'ont également donné conscience de la valeur dynamique du récit merveilleux quand il reste fidèle à la réalité sociale. La merveille est le vêtement dans lequel certains peuples enferment leur sagesse et leur connaissance de la vie. Pour notre peuple, les vents, les fleuves, les saisons, les éléments sont des personnages vivants qui interviennent dans la vie des hommes. Pourrais-je rester fidèle à la symbolique de la vie du peuple que je veux servir et aider si j'employais une forme étrangère à leur démarche de pensée? Si le roman doit être action, l'esprit du réalisme fait obligation de tenir compte des caractéristiques nationales semblables. En vidant les mythes de leur contenu métaphysique, il peut servir à l'éducation de la conscience des hommes. Donc là, vous voyez que ce sont des formulations qui sont relativement curieuses si on considère que bon, la pratique du vaudou est très bien connue partout en Haïti et parler de façon très détournée ici, de vider les mythes des gens qui pensent que bon, les vents, l'eau, etc., les éléments, ce sont des personnages vivants qui interviennent. Ce n'est pas du tout une façon habituelle de formuler ces questions-là. C'est une manière, à mon avis, d'essayer un petit peu de tirer le tout du côté du merveilleux, parce que bon, il est très clair que ce ne sont pas des personnages, ce sont des esprits qui habitent, pas dans le ciel, mais dans les cours d'eau, enfin dans les fleuves, etc. Donc c'est vraiment parler du merveilleux dans ces termes-là, pour moi, est une manière d'indiquer en fait qu'il s'agit beaucoup plus des croyances vaudou qui sont visées par ce terme de merveilleux, d'où la notion que bon, c'est une enveloppe, c'est un vêtement, et que bon, à long terme, on pourrait s'en défaire. De toute façon, s'il s'agit de contes, bon, les contes, je crois, n'ont pas de contenu métaphysique, donc il faudrait les vider, et ils n'ont pas besoin d'être transformés. Il y a toutes sortes de types de contes que les ethnologues montrent bien que ça fait partie d'une didactique sociale depuis toujours, dans la forme la plus traditionnelle. Donc, tout ceci, moi, je crois, montre bien que bon, c'est l'univers vaudou qui est visé dans ce merveilleux d'Alexis et qui le gêne. Bon, je saute un peu sur les deux prochaines citations que vous avez, puisqu'en fait, là, on voit plus clairement, et c'est dans le premier article, que ce qui est visé, bon, c'est effectivement un art religieux qui est associé à la naïveté, à l'irrationnel, qui est nommé dans la citation, la septième, bon, l'irrationnel, le mystique, donc je prends quand même la septième citation. Naturellement, il faut toujours mieux faire, et les combattants d'avant-garde de la culture haïtienne se rendent bien compte de la nécessité de transcender résolument, ce qu'il y a d'irrationnel, de mystique et d'animiste dans leur patrimoine national, mais ils ne croient pas qu'il y ait là un problème insoluble. Ils rejetteront le vêtement animiste qui cache le noyau réaliste dynamique de leur culture. Donc, il y a ça, mais il y a évidemment aussi dans ces formulations, je crois, bon, un relent de ce qui était le discours colonial sur relier le merveilleux à la naïveté, à l'irrationnel, à l'animisme, c'est dire quelque part que c'est du primitivisme. Et donc, c'est quelque chose, un vêtement rétrograde, donc il faudrait donc délivrer le bon peuple pour qu'il puisse aller de l'avant. Et d'ailleurs, vous avez des formulations comme élever à la dignité d'œuvre d'art la tradition. Ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose d'assez paternaliste par rapport à cette culture populaire, sinon élitiste. C'est-à-dire, bon, ça se trouve quand même quelque part en bas, et pour arriver à la civilisation, il faudrait monter un peu plus haut. Donc, toutes ces formulations, je crois, trahissent quand même un esprit qui, même s'il se défend dès le départ que, bon, c'est pas du tout sa position, ça transparaît quand même quelque part. Et là, bon, vous voyez, par exemple, que bon, il fait une sorte de petite pirouette pour, dès le départ, échapper à ce qui pourrait être perçu chez lui comme, un lien entre le merveilleux et le primitivisme. Huitième citation, l'art haïtien, comme l'art de ses cousins d'Afrique, est profondément réaliste. Il nous semble, cet art démontre la fausseté des thèses de ceux qui rejettent le merveilleux sous prétexte de volonté réaliste et prétendent que le merveilleux serait seulement l'expression des sociétés primitives. Donc, c'est parce que c'est du réalisme que c'est quand même, on peut en faire un élément de l'art national et de l'avenir. Bon, ceci dit, donc, je crois que, bon, on voit que, bon, quelque part, toute cette entreprise, d'ailleurs, le premier article a pour sous-titre Prolégomène à un manifeste du réalisme merveilleux des Haïtiens. Ça, ce manifeste, à ma connaissance, n'a jamais existé, finalement. Mais on voit bien que ce n'est pas un manifeste littéraire qui est visé et qui en serait sorti, mais un manifeste politique où c'est une étape à passer, où on se sert. Et ça, bon, il va, dans le premier article aussi, il dit « Comment serions-nous inconscients au point de refuser d'utiliser cela, donc chansons, contes, l'esprit du vaudou, au service d'une prise de conscience et de lutte précise et actualisée du peuple ?» Donc, c'est vraiment une façon, puisque, bon, le peuple semble être un peu réfractaire caractère au discours idéologique, de l'entraîner par sa sensibilité. Bon, vous avez les deux dernières citations qui en parlent clairement. Donc, l'humanité en marche vers sa libération. Pour entrer là-dedans, il faut prendre le peuple par sa sensibilité. Et pourtant, à un moment donné, bon, parler le langage du peuple, mais pas parce que bon, le but ultime serait de créer une littérature du peuple comme littérature nationale. Ce sera beaucoup plus donc d'implanter dans l'esprit du peuple toute cette idéologie de façon indirecte, ce qui serait donc une façon de transformer à la fois la littérature et la société. Bon, ceci dit, et si j'en arrive à ma conclusion, oui, c'est évidemment bon, non seulement la fin tragique d'Alexis qui a mis fin à ça, mais l'histoire a montré que c'était certainement des ambitions très, 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 très sincères de la part de ces militants de l'époque, et surtout Alexis, mais que les moyens se sont avérés plutôt inefficaces. Haïti, jusqu'à présent, a certainement encore le communisme, le socialisme dans le paysage politique. Ça n'a pas disparu, mais ce n'est certainement pas devenu ni un État socialiste, ni même démocratique. Mais du côté de l'art, bon, l'art est aussi multiforme aujourd'hui qu'il était, je crois, et surtout la littérature, à l'époque d'Alexis. On ne peut pas dire que ni alors ni aujourd'hui, les réalismes merveilleux, enfin, si tant est qu'on a pu le définir mieux entre-temps, et je ne crois pas que ce soit le cas. Enfin, je dirais donc que ce n'est pas non plus un courant dominant dans la littérature haïtienne aujourd'hui. Ça fait partie d'un certain nombre de textes, certainement. Mais je crois que bon, si on procède comme Alexis, si le réalisme serait d'inclure donc les croyances, si on soustrait ces croyances du merveilleux en disant que ça, effectivement, il a raison, ça fait partie du réalisme, montrer un peuple qui croit à ses divinités, c'est simplement, enfin, comme au Québec, montrer que bon, si on a un paysan athée, c'est pas très crédible. Donc, de ce point de vue-là, les croyances religieuses ne font pas vraiment partie du merveilleux, mais du réalisme tout court. Alors, qu'est-ce qui reste quand on parle du réalisme merveilleux? Qu'est-ce qui reste merveilleux? Est-ce qu'il y a des textes qui font encore, enfin, créer des poissons amoureux, des fiancés qui se transforment en couleuvres, des œufs qui deviennent des pierres précieuses? Bon, est-ce qu'on a quelque chose de ce genre? Est-ce qu'il y a une inventivité à merveilleux qui serait vraiment inventée et qui ne relève pas des croyances? Ça, bon, je crois qu'il reste beaucoup de travail à faire dans le domaine des genres et de savoir les définir un peu mieux qu'on l'a fait jusqu'à présent pour répondre. Mais je crois qu'on peut quand même avancer le postulat que ce n'est pas un courant dominant, certainement. Bon, merci. Merci.